I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tant que tu fais un truc que t'aimes pas, tu sais pas si t'es en train de faire ce que t'aimes. Le jour où tu fais ce que t'aimes, tu le sais.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Mathieu Nebra, le cofondateur d'Open Classrooms. Même ceux qui ne le connaissent pas le connaissent, car avant de s'appeler Open Classrooms, le site qu'il a créé en 1999 s'appelait le site du zéro. Et si vous avez tenté de coder une page web avant 2013, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, Open Classrooms aide des millions d'élèves à se former en continu à des métiers d'avenir. En fait, ils aident les gens à trouver leur place et je suis content parce qu'on parle beaucoup d'éducation et d'orientation dans cet épisode. Donc tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils aiment dans la vie ou qui ne sont pas sûrs, ouvrez vos petites oreilles, on parle de ça, on parle d'ouvrir l'éducation au plus grand nombre, on parle de Mathieu, de son mode de vie et de ses techniques de productivité. C'est l'épisode qui va vous chauffer pour toute la semaine et après cette introduction pleine de peps, pensez à vous abonner sur l'application Podcast et iTunes, ça m'aide beaucoup et bonne écoute.
Si je lance l'enregistrement,
ah, c'est bien.
Donc je recommence. Salut Mathieu Nebra de Open Classrooms.
Salut.
Bienvenue sur Nouvelle École. Tu sais que on s'est jamais rencontré, mais je suis très content de t'avoir sur Nouvelle École pour une raison qui est vraiment personnelle. C'est une histoire que tu dois souvent entendre, mais quand j'avais, je crois, 16-17 ans, j'habitais en Savoie dans un village et à l'époque j'avais un groupe de rock. Et ce groupe de rock, c'était vraiment 90% de ma vie, quoi. Et je me disais, j'aimerais bien avoir un site internet pour mon groupe de rock. Et je savais pas faire, alors j'avais tapé comment faire un site internet, je crois, sur Google. Et j'étais tombé sur le site du zéro. Et sur le site du zéro, j'avais appris à faire une page internet. Donc j'avais fait une page HTML avec, bah, je sais pas, il devait y avoir 3-4 liens, quoi, pour les photos.
C'était il y a longtemps?
Ouais, c'était il y a plus de 10 ans, ouais. 10 ans environ.
D'accord.
Et donc j'avais fait ma page, c'était une page background black avec vraiment des
avec du gros métal qui sort en fond.
Non, il y avait pas, non ça j'avais déjà compris à l'époque que le
des lettres de feu.
Non c'était pas du métal non plus, mais j'avais déjà compris à l'époque que le son qui se lance en autoplay sur les pages, c'était pas bon délire.
Merci pour nos oreilles.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc oui, je te présente du coup, parce que je digresse, tu es donc le fondateur de Open Classrooms, qui est devenue en fait une véritable école en ligne.
C'est ça. C'est le nouveau nom du site du zéro, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça.
On a juste changé de nom il y a 2-3 ans.
C'est ça, vous avez changé de nom. Mm-hmm. Le site du zéro, c'est un site que tu as monté, je crois, en 99.
C'est ça.
Quand tu avais 13 ans, à peu près.
Ouais.
Et qui était un site pour apprendre à coder. Et à l'époque, ça a commencé avec HTML. Et ensuite, vous aviez ajouté des langages parce que les gens pouvaient collaborer. Au bout d'un moment, les gens pouvaient commencer à ajouter des tutoriels, ce genre de choses.
Tout à fait.
Et là, aujourd'hui, le Open Classroom, ça, bah, c'est beaucoup plus gros que ce qu'était le site du zéro à l'époque. Je crois que vous avez plus de 2 millions d'inscrits.
Mmh, 3 millions de personnes qui viennent se former chaque mois dans 120 pays.
Et qu'est-ce que j'allais dire ? Maintenant, vous avez des formations qui sont reconnues par l'État.
Diplômantes, ouais.
Diplômantes.
Exactement. Et ça a été un gros changement.
Ouais, on va parler de tout ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que sur nous, donc le nom du podcast, Nouvelle École, peut-être, mais c'est un thème qui revient beaucoup dans ce podcast, l'éducation, qui moi m'intéresse beaucoup parce que vraiment j'ai zigzagué 30 000 fois entre les différents trucs et comme je me suis beaucoup servi ensuite de nouveaux types de formations, notamment j'ai fait le wagon, ce genre de choses. C'est vraiment un thème qui m'intéresse, mais je voudrais juste parler de. J'ai regardé les conférences que tu as faites, tes différents TEDx. J'ai lu la plupart de ces articles et il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu racontes l'histoire de quand tu étais enfant et t'as commencé à vouloir apprendre à coder. Et pour apprendre à coder, t'as acheté un livre. Mm-hmm. Et que ce livre n'était pas très bien fait, etc.
C'est ça.
Et pour en revenir à ça, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, t'avais envie d'apprendre à coder ? Parce que moi, pour le coup, j'avais un ordinateur près de la même époque. Mm-hmm. Mais j'ai jamais eu envie d'apprendre, j'ai jamais même pensé à coder, tu vois.
Le but, c'était pas de coder, le but, c'était de créer quelque chose. Tu vois, créer un site web. À force d'en utiliser, tu dis, tiens, si j'en faisais un moi-même, comment ça marche ? Comment est-ce que tu montes un site web ? Ben, de la même façon que les gens jouent au Lego, pour moi, c'est exactement pareil. Si tu joues au Lego, pourquoi est-ce que tu montes un truc avec des Lego ? Juste pour le plaisir de construire quelque chose, en fait. Mmh. Ben, moi, le développement, la programmation, c'est une création numérique, simplement.
Donc à l'époque, t'avais déjà accès à fond à tous les sites web, etc.
Non, j'avais une heure d'internet par mois. Mmh. Ça coupait le téléphone, donc ma mère n'était pas contente. j'avais vraiment une heure par mois, c'est pas beaucoup. On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'était très très handicapant et du coup c'est pour ça que je suis pas allé sur un site web pour apprendre à coder, mais je suis allé en librairie à la Fnac à l'époque parce que c'était le seul endroit où tu avais véritablement accès à la connaissance de façon facile. À l'époque, internet c'était pas assez développé, pas assez rapide.
Tu avais acheté un livre et tu racontes que ce livre était très mal fait. Pourquoi est-ce que c'était mal fait comme ça?
Alors, très mal fait, je sais pas, j'ai quand même réussi à apprendre à coder avec, donc en tout cas il était très frustrant par endroit parce que parce que dès le début, il expliquait qu'il était destiné à des professionnels. Donc déjà, je l'ai acheté parce que c'était un des rares où je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer avec celui-là. Mais en réalité, il n'y avait aucun qui était réellement destiné à des débutants. Et ensuite, j'avais l'impression, en le lisant, que l'auteur voulait qu'on ait des difficultés à apprendre comme lui avait eu des difficultés. En gros, un peu genre, j'ai galéré, maintenant, vous allez galérer un peu. Mmh. Et donc, très concrètement, comment ça se matérialise ? Bah, tu peux avoir des mots qui sont utilisés en page 10 et définis en page 110. Et ça, je l'ai vu quelques fois dans ce bouquin, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais juste pourquoi tu fais ça, en fait ? C'est...
Il y a comme un amour de la complexité, je trouve.
Oui, mais c'est je sais pas si c'est français ou quoi, mais...
J'allais dire ça, je sais pas. Est-ce que c'est français, justement ? C'est une question que je me pose.
Je vais éviter de faire du French bashing.
Mais je le fais trop souvent, ça, je trouve. Je dis, est-ce que c'est français ? On sait pas, tu vois. Mais t'en parles aussi sur...
En tout cas, autour de moi, culturellement, donc que ce soit français ou, je sais pas, parisien ou j'en sais rien, mais il y a un truc qui revient assez souvent, c'est effectivement le plaisir de la complexité, c'est-à-dire montrer que c'est difficile et qu'on en a chié et que voilà, maintenant on est bon, etc. Mais toi aussi, tu dois galérer un peu pour arriver à mon niveau. Mmh. Et c'est assez ancré dans les méthodes d'éducation, j'ai l'impression. Je me souviens un peu de ça chez certains profs. Pas tous, hein, mais chez certains.
Mais est-ce que c'est pas aussi ancré dans le travail, presque, j'ai envie de dire, le côté... quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, on va toujours essayer de montrer que c'est très difficile et qu'on a beaucoup de difficultés à le faire et que tu ne trouves pas.
Ça, je sais pas. Là, je me connecte un peu moins à cette idée. Peut-être ouais. Parce que mon boulot, il est différent, parce que je suis le boss de la boîte maintenant, peut-être. En fait, j'ai acquis une conviction que j'ai plutôt intérêt à parler sincèrement de la réalité des faits autour de moi, donc d'être honnête, que ce soit envers moi-même ou envers les autres. Et donc, mon boulot, je le trouve pas difficile. Je le trouve prenant, je le trouve engageant, mais je ressens pas le besoin de dire que c'est difficile. Peut-être par effet de contrebalance, parce que tout le monde, quand il vient me voir, il me dit, putain, t'as fait le site du zéro, waouh, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et si tu veux, il y a tellement d'historique, tellement de poids sur ça, que je suis obligé de dire, non, mais en fait, ça va, quoi, je suis quelqu'un de normal, je fais pas des journées de 72 heures non plus, enfin, voilà.
Quand t'as créé le site du zéro, en fait, tu l'as créé, c'était pour tes potes?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'était pour moi et pour mes potes. Enfin, c'était un
Quand
peu un
c'était pour
de...
toi pour faire un projet, pour apprendre à faire un site en plus.
Ouais, ou... en fait, si tu veux, je venais d'apprendre à créer un site en lisant ce bouquin et il fallait bien que je pratique. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai pas trop aimé la façon dont le bouquin était formulé, je vais le réécrire de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. J'ai devenu un peu schizophrène. Je me suis parlé à mon moi d'il y a 3 mois en me disant, voilà, Mathieu, ce qu'il faut que tu saches, là, c'est un peu galère, etc. Et je l'ai fait sous forme de site web. Et en fait, je crois que je l'aurais pas fait sous forme de site web si j'avais pas eu 13 ans. Je pense que j'aurais contacté une maison d'édition. Mais à l'époque,
j'aurais fait un nouveau livre, c'est ça?
J'aurais fait un livre, je pense.
D'accord.
Spontanément, c'est... parce que si tu veux, encore une fois, internet et site web, c'était pas forcément aussi gros, aussi valorisé. Faire un bouquin, c'était énorme. Pour moi, c'était genre être une star, quoi, faire un bouquin. Donc non, j'ai pas fait de bouquin à l'époque. Je pense que sinon, j'aurais fait ça.
Bah d'ailleurs, t'as refait des bouquins depuis?
Après, j'ai fait des bouquins.
Ouais.
Genre, je sais plus. À 4, 5, 6 ans plus tard, peut-être, ouais, au moins 6 ans après avoir créé le site, vers 2006, j'ai contacté une maison d'édition et j'ai proposé de faire mon cours de HTML en livre. Ça a été un gros succès.
Après avoir commencé à fonder le site du zéro, bon, le site a gagné de l'attraction, ça dure depuis assez longtemps. Et toi, tu t'es mis à faire des études d'ingénieur.
Ouais.
À l'EFRAI, je crois.
Ouais.
Et à un moment, il a fallu que tu choisisses entre choisir une carrière d'ingénieur classique, aller travailler dans une entreprise, ou mettre le paquet sur le site du zéro, qui est ensuite devenu Open Classroom. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, t'as hésité?
Oui. Genre, c'était pas une évidence, quoi.
C'était pas une évidence.
Non, non.
Donc t'as pensé à arrêter, pourquoi pas, le site du zéro?
Oui, c'était sur la table. Si je me remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, en troisième ou quatrième année d'école d'ingénieur. J'avais 20-21 ans et j'étais en stage par rapport à mon école dans une boîte et pendant ce stage de 4 mois, j'avais dû passer plus de la moitié de mon temps à m'occuper de mon site et pas du stage pour lequel j'étais embauché. Donc je commençais à avoir un cas de conscience, si tu veux, c'était qu'est-ce que je fais, il y a un problème, ça a toujours été prenant dans ma vie, mais quand même au bout d'un moment quand t'es embauché pour faire ça, en gros ça a réveillé les trucs en moi. Et je me suis dit, si ensuite je vais être en CDI dans une boîte et que je me trouve à m'occuper de mon site à côté, je pourrais pas faire mon boulot correctement. Donc, de façon purement raisonnée, je me suis dit, c'est soit je m'occupe de mon site à 100%, soit je mets en CDI à 100%, mais le faire à moitié, non, c'est plus possible parce que ça faisait juste 15 ans que je le faisais comme ça, quoi. Ou 12 ans, mais bon, c'était suffisamment long, quoi.
Et pourquoi t'as pris la décision de continuer le site alors?
Alors la première, c'est parce que j'étais pas seul. Parce que si j'étais tout seul dans ma tête, je pense que ça aurait été plus difficile encore. J'avais ma copine de l'époque est devenue ma femme qui m'a quand même pas mal soutenu là-dedans. Mes parents aussi, où j'ai pas mal discuté avec eux. Et,
tes parents t'ont soutenu dans la voie entrepreneuriale?
Oui. Le sujet a pas été évident. Ils ont pas dit « Ouais, vas-y, fonce !»
En tout cas, à l'époque,
c'était pas bloquant.
Les startups, c'était pas aussi... hype, il n'y avait pas autant de hype que maintenant.
Non, quand tu expliques à tes parents en 2007 que tu vas créer une boîte, ils peuvent te regarder comme si tu lui disais je vais faire une carrière de troubadour ou un truc comme ça, quoi. C'est pas une évidence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'ont pas soutenu, loin de là, au contraire. Simplement, ça a été sûr, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, etc. Parce que globalement, ils venaient de me payer une école d'ingénieur privée qui n'était pas trop donnée. Et en gros, si je prenais la voie entrepreneuriale, ils savaient très très bien que j'allais être payé zéro et ensuite j'allais être payé 200 euros si, dans le meilleur des cas au bout d'un an ou deux. Et effectivement, c'était pas facile, c'est la voie difficile.
Et comment tu faisais? Il y avait des revenus sur le site du zéro à cette époque-là?
Alors il y avait déjà un petit peu de revenus parce qu'on mettait de la publicité, un petit peu.
Okay.
Et d'ailleurs, c'était une des raisons aussi pour laquelle on s'est dit il faut qu'on crée une structure parce que. Il y avait quelques revenus qui rentraient, mais pas beaucoup, hein. Mais c'était juste pas possible de pas le mettre dans une structure juridique. Et ensuite, c'était une façon de le développer. C'est-à-dire qu'une fois que t'as la structure, t'as envie de le développer. Quand je dis on, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, on était quand même donc deux à créer la boîte, avec mon associé Pierre Dubuc. Et donc, une des raisons aussi pour laquelle j'ai créé la boîte, clairement, c'est que lui aussi se posait la question et était motivé. Donc, on s'est, je pense, entre-motivé. Tout seul, il faut encore plus de, je trouve qu'il faut encore plus de motivation.
En fait, t'as trouvé très tôt ce que t'aimais faire.
J'ai eu beaucoup de chance, ouais.
T'estimes que c'est de la chance?
Oui, parce que ça peut... Enfin, ton histoire personnelle peut t'amener dans différentes voies et tu peux passer à 2 centimètres près d'un truc que t'adores mais tu le vois pas parce que ce jour-là, t'es passé 2 minutes après à la caisse alors que t'aurais pu rencontrer quelqu'un qui est super intéressant et qui aurait changé ta vie. Et les histoires comme ça, on en a plein autour de nous. En fait, on voit des gens qui disent « En fait, c'est parce que ce jour-là, j'ai décidé de pas aller skier, j'en sais rien. » Il peut y avoir n'importe quoi qui fait que du coup, tu fais des rencontres qui sont déterminantes. Donc ouais, je pense que c'est un coup de bol, mais je vais pas dire que tout est lié à la chance. C'est aussi beaucoup de travail. En réalité, c'est... la chance d'avoir écouté toujours ce que j'aimais faire. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question si c'était bien ou si c'était mal, si la société elle acceptait ça ou pas. Ça, pour le coup.
Qu'est-ce qui fait que t'étais isolé de ces problématiques? de ces inquiétudes, disons.
Ah, j'étais pas complètement perméable, hein, imperméable. Je veux dire, je les entendais quand même, hein, faut pas déconner. Si je me demandais si je prenais un CDI ou si je créais une boîte, c'est aussi parce que la société, elle disait, faut prendre un CDI après, en fait, en école d'ingé, parce que sinon, c'est pas sérieux. Donc, en vérité, j'étais quand même à l'écoute de ça. Mais au fond, j'étais tellement passionné par ce que je faisais. Ça me faisait tellement plaisir, si tu veux, de faire ce que je faisais. Et je sentais l'utilité que ça prenait le dessus dans mon cerveau. Pour moi, le fait d'être utile, même si ça apportait pas forcément d'argent de suite ou quoi, c'était pas une question. C'était juste, je sens que je suis sur quelque chose d'utile et je continue à aider les gens. Donc, c'est juste naturel, c'est normal. Enfin, je vois pas pourquoi je continuerais pas, en fait. Je me sens utile.
D'accord. C'était plutôt une volonté d'enseigner ou une volonté d'être utile au départ, du coup? Est-ce que si t'avais trouvé une autre manière d'être utile en codant un autre site,
être utile. Je pense que plus fondamentalement, c'est être utile. Chez moi, c'est un besoin assez fort. C'est quand je peux me rendre utile auprès des autres, ça me procure beaucoup de plaisir. C'est tout simple.
Est-ce que tu penses que c'est un bon guide pour trouver quelque chose que t'aimes faire dans la vie, arriver à créer à trouver une utilité auprès des autres?
Oui, clairement.
Parce que tu sais,
je sais pas si c'est la seule façon de faire, hein, mais c'est quand tu te sens utile et que tu prends du plaisir à ça, c'est bien. Mais tu peux prendre du plaisir pas forcément en étant utile pour les autres. Chacun a ses sensibilités, je dirais. Donc, peu importe du temps. Pour moi, quand tu veux trouver ce que tu veux faire, il faut que, un, tu aimes ça. Deux, que tu sois bon à ça. Alors, bon, ça veut dire, en général, juste que tu sens que tu vas faire un meilleur travail que la moyenne des gens que tu rencontres. Et en général, les deux sont liés. Si tu aimes ça, tu deviens bon à ça. C'est lié. Et puis, trois, il faut qu'il y ait un intérêt. Mais ça, c'est à la limite secondaire. Dans un premier temps, il faut d'abord trouver un truc où t'es bon.
La première chose, c'est de trouver quelque chose que t'aimes faire. Et comment tu... Mais justement, toi on dit que tu as eu de la chance parce que tu as trouvé très tôt quelque chose que tu aimais faire.
Je savais pas que c'était quelque chose que j'aimais faire. Je pense que je m'en suis rendu compte genre 13 ou 14 ans après avoir commencé.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent ce qu'on appelle des passions, on dit ah oui, lui il est passionné de je sais pas, il aime bien faire des films. Ouais. Souvent il s'est mis à faire des films très tôt sans trop se poser la question.
Ouais.
Et il s'est dit, au bout d'un moment, il s'est dit ah tiens, j'aime vraiment bien. Et puis encore plus tard, il s'est dit ah bah en fait, peut-être que je peux faire ça dans ma vie.
Ouais.
Mais du coup, ça pose la question qui est très complexe, je trouve, de moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé mes études, je savais pas ce que j'aimais faire, en fait. Je
moi
savais
plus.
Pas du tout ce que j'aimais faire.
Oh, j'avais quand même quelques indices.
Ah ouais?
Bah, j'aimais la création numérique.
T'aimais la création numérique, voilà.
J'ai pris du plaisir à écrire des cours. J'ai pris du plaisir à partager des cours. Mais je ne l'avais pas formalisé. J'ai mis 15 ans à comprendre que, en fait, j'aimais partager en écrivant des cours. Et particulièrement sur la programmation. Donc, j'ai combiné trois passions, en fait. Mais ça a été un tilt au bout de 15 ans. Au milieu, je le faisais sans trop me rendre compte que j'étais bon ou que j'aimais ça.
Mais tu n'avais pas l'impression d'être perdu?
Perdu ou dans le maquis des...
Ouais, est-ce que tu avais le sentiment de te dire oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais?
J'ai dû avoir des moments comme ça. Si, bah, l'orientation au lycée, tout ça, je me demandais ce que j'allais faire. C'est devenu assez naturellement de faire une école d'ingé quand même parce que j'aimais la création numérique et donc je pensais que ça serait un bon endroit pour le faire. Mais il y a eu plusieurs fois où je me demandais ce que j'allais faire. Je savais jamais su quel métier j'allais faire. En étant dans mon école d'ingé, bon, j'apprenais des trucs, ça m'intéressait. Par contre, au niveau des métiers, je savais même pas à quoi ça ressemblait une journée type. Je savais pas du tout si ça me plairait de bosser dans une boîte grande, petite, moyenne. Et alors, être entrepreneur, mais c'était complètement hors de mon champ de pensée, ça pour le coup. Il y a des gens qui, depuis l'âge de 10 ans, veulent être entrepreneurs. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai juste toujours aimé faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire, encore une fois, partager des cours. J'aime écrire et j'aime la programmation, on va dire.
Mais parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup, tu sais, en ce moment, là, j'ai 25 ans. Je suis sorti d'école il y a un an et demi.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés dans des jobs ou rentrent dans des carrières, mais pas spécialement par choix, plutôt parce que ils savent pas ce qu'ils aiment, en fait.
Ouais.
Ils savent pas ce qu'ils aiment faire, donc ils vont prendre, en fait, c'est un peu la suite des grandes écoles.
Ouais.
Ils vont prendre les grosses boîtes type cabinet de conseil, banque, etc., qui vont finalement leur garder des portes ouvertes, en théorie.
Mm.
Et j'en parlais avec justement une amie récemment, et je disais, mais tu me dis que tu vas pas aimer ce job, que tu sais que tu ne vas pas aimer. Alors pourquoi est-ce que tu y vas quand même? Elle me disait, mais parce qu'en fait,
j'ai pas d'autre choix.
Voilà, j'ai pas d'autre choix. Je sais que ce truc-là, même si j'aime pas, c'est pas trop mauvais.
Ouais.
Mais je sais pas comment faire pour savoir ce que j'aime, en fait.
Compris.
Tu vois? Et c'est pour ça que je te posais ces questions, parce que et je le rencontre à cet âge-là à 25 ans, mais je le rencontre aussi chez ma cousine qui a 18 ans et ou 20 ans, peut-être, je peux pas dire de bêtises, si elle écoute. et qui pour le coup, elle c'est pareil. Alors elle c'est plus tôt, elle a pas encore fait de vraiment ses études, mais elle se dit mais je sais pas, elle a essayé plusieurs trucs différents, elle sait pas.
Ça rejoint le sujet de l'orientation, qui est un sujet très important, fascinant et très 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 mal géré à mon sens à l'heure actuelle. Autour de moi, en tout cas, je vois que un conseiller d'orientation et demi dans un lycée de 1800 étudiants, c'est pas suffisant. Et ça, c'est à peu près le cas tout le temps. Un conseiller d'orientation, même s'il est formé un peu, il peut pas connaître bien tous les métiers, il peut juste avoir une vue très générale. Mais en réalité, tout le monde va pas le rencontrer. Stratégiquement, il est placé quand même à côté de l'infirmier ou l'infirmière. Sinon, c'est les profs, et notamment le prof principal en conseil de classe, qui en fait définit un petit peu l'orientation. Ah, il a des bonnes notes en maths. Ah, il va faire S alors. Ah, il a des moyennes notes en maths. Ah, il va faire ES. Ou alors, il va faire L, parce que ça va pas sinon. Ou il a l'air d'avoir quelques bonnes notes en français. Mais c'est, ils ont... Et je leur en veux pas personnellement, c'est juste la situation est aberrante. Ils ont pas connaissance des métiers. Pour la plupart, ils ont jamais bossé dans une boîte, et même s'ils avaient bossé dans une boîte, ils sauraient pas quels sont les autres métiers. Donc ils ont une vue insuffisante de ça. Et donc la vue est très académique, très scolaire dans l'orientation. Et donc on parle jamais du métier. Donc il y a énormément de choses à faire. J'ai plein d'idées pour ça, j'ai plein de conseils à donner si tu veux à tes auditeurs, mais je trouve que c'est un vrai sujet et un énorme gâchis. Mais je vais pas dire aux personnes que tu connais notamment que parce que il y a t'as 28 ans, t'as 35 ans ou quoi, c'est trop tard pour savoir ce que tu veux faire. Pour moi, il est jamais trop tard. C'est pas parce que t'entends que j'ai trouvé à 13 ans que j'aimais beaucoup faire ça, ça et ça que c'est trop tard pour toi. Non, je pense qu'il y a vraiment des gens qui découvrent. D'ailleurs, j'ai entendu des discours hier de personnes qui à 37 ans, 39 ans, 40 ans découvrent qu'elles aimaient faire ça. Alors qu'elles sont posées toute leur vie la question de ce qu'elles aimaient faire. Et des gens connus qui sont parfois admirés par pas mal de gens. Donc je me rends compte que c'est en fait ce que vous vivez de pas savoir ce que vous voulez faire. C'est à peu près ce que 99,99% des gens vivent. Donc déjà, si ça peut vous détendre, sachez-le. Et ensuite, j'aurai des conseils à donner qui sont, si tu veux prendre un boulot dans la banque et que ça te passionne pas, mais que ça te permet de manger au début, ok, pourquoi pas. Mais surtout, ne t'en satisfais pas. Parce que c'est un truc que j'ai découvert. Tant que tu fais un truc que t'aimes pas, tu sais pas si t'es en train de faire ce que t'aimes. Le jour où tu fais ce que t'aimes, tu le sais. Tu vois la différence. Mais le problème, c'est que si t'as jamais eu ce sentiment très fort et très net que « Waouh, j'adore vraiment faire ça », c'est que tu es pas encore arrivé au stade où t'as trouvé. Et je suis sûr que chacun a un truc qu'il adore faire. Sûr à 100% maintenant. Par contre, il faut peut-être chercher pendant un moment. Il faut multiplier les expériences. Mon conseil, c'est de voyager. Si t'en as les moyens, la possibilité. Voyager dans d'autres pays, c'est un excellent moyen de faire des rencontres, de découvrir d'autres cultures et de penser le monde différemment. Ça, pour moi, c'est assez fascinant. Et c'est possible de faire des petits boulots très variés, des stages ou des petits boulots, juste pour tester plein de métiers. Et j'insisterai, y compris des métiers qui sont pas forcément valorisés dans la société.
Du type.
Je sais pas. Tu dis aujourd'hui à tes parents que tu veux faire fermier.
Ok.
Parce que t'as toujours aimé, je sais pas, la terre, la ferme, etc. Mais écoute, j'ai envie. Ça c'est un peu débile, ça. On dirait un film Disney. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Fais-le, mais juste une semaine. Et tu verras que c'est vraiment trop chiant de ramasser la merde et c'est trop fatigant ou quoi. Ok, très bien. Il y a pas de problème. Tu changes. Mais au moins tu as touché et tu as su ce que tu voulais faire. Au contraire, vraiment tu sens quelque chose que t'aimes faire. Vas-y, fais-le. Je pense qu'il faut vraiment le prendre des exemples concrets, parce que pour dire que c'est pas flou, quoi. C'est vraiment des histoires qui arrivent. Ma femme, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle avait pas forcément de mauvaises notes en maths, mais elle était meilleure en français. Les profs lui ont dit, tu vas faire L. Bon, elle a fait L. Mais vraiment, tu vois, le sujet d'instruction s'est fait comme ça. À la fin d'avoir fait L, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'est dit, je sais pas du tout, mais j'aime un peu la géo, alors je vais faire fac de géo. Et puis après, elle a évolué dans différents trucs, elle a fait des systèmes d'information géographique. Bon, elle aimait ça, mais c'était pas non plus la folie furieuse, mais elle aimait ça. Mais en fait, à l'âge, je sais plus, de 10-12 ans, elle aimait beaucoup la danse. Quand elle en parle à ses parents lui font « t'es sûr, c'est compliqué, c'est fatigant, ça paye pas bien », plein de trucs comme ça. Mais ils ont pas dit non, tu vois, ils ont juste dit « t'es sûr », etc. Et du coup, elle a pas osé aller plus loin. Donc elle voulait faire le conservatoire de danse, mais en gros tu avais le choix des études supérieures ou quoi, ou tu avais le choix de faire sport études danse en parallèle. Et finalement, c'est maintenant seulement à 32 ans que après avoir fait plein de jobs différents, y compris dans l'informatique, dans la géographie ou quoi, elle se dit, bah, en fait, je vais plutôt m'orienter vers la danse. Et maintenant, elle a jamais été aussi épanouie que ça. Et est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça paye bien? Non. Mais il se passe quelque chose et je suis convaincu que c'est plus créateur de valeur pour tout le monde quand tu fais ça.
Je retiens deux choses de ce que tu dis. C'est un, multiplier les expériences. Donc faire le plus d'essais possible jusqu'à ouais. trouver quelque chose où vraiment tu te dis « Ah, ça, ça me plaît
ouais. ».
Ça, c'est un truc que je dis beaucoup aussi. Y a pas mal de mes potes qui se marquent parce qu'à chaque fois que je les revois, je suis toujours en train de faire un nouveau truc. Mais en fait, c'est assez volontaire. C'est parce que je suis assez persuadé qu'il y a des choses que je vais trouver que j'adore faire, comme le podcast par exemple.
Ouais.
Qu'il y a un truc que j'ai fait, à un moment, je me suis dit « Bon, bah vas-y, je vais essayer de faire 4-5 épisodes et on va voir. » Et le deuxième truc, c'est... ben non, j'ai oublié. J'avais dit la multiplication des expériences. Ah oui, c'est par rapport à l'enfance. Si ouais. tu me parles de ta femme et du fait que, de ce qu'elle aimait faire quand elle était enfant, est-ce que c'est pas toujours un bon guide des choses que tu aimais faire étant
ouais,
enfant?
Ouais, mais les gens.
Sans vouloir dire, je vais devenir joueur de foot professionnel.
Ils ont beaucoup de mal à se relier aux sentiments d'enfance ou à écouter les trucs qu'ils savaient quand ils étaient enfants. Notamment parce qu'ils pensent que c'est pas sérieux. Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
C'est quelque chose que
tu
as constaté
oui,
chez les gens.
C'est pas un métier, oui, mais c'est pas un boulot, c'est pas sérieux. Tu vois, donc ça passe complètement dans un trou noir dans ton cerveau, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui effectivement savent des trucs qu'ils aiment, mais ils osent pas aller jusqu'au bout de ça, de creuser ce que ça veut dire, parce qu'ils savent pas quel métier il y a derrière, par exemple, quelle réalité il y a derrière, et donc ils vont pas essayer. Je pense qu'il y a vraiment de ça.
Ouais, mais est-ce que c'est si grave de pas savoir quel métier ça donne? C'est quelque chose que tu as constaté chez les gens que t'as, avec qui t'as interagi?
Je pense qu'il y a une espèce de comment on appelle ça en anglais, analysis paralysis. Enfin, tu es paralysé à force de vouloir analyser ce que tu veux faire. Mmh. Et c'est exactement comme le problème de l'entrepreneur. Tu vas jamais créer ta boîte si tu attends d'avoir l'idée parfaite et le truc parfait. En fait, il faut te lancer, te planter 150 fois. Et au bout de 150 fois, il y a peut-être un truc qui va bien marcher. Pour moi, la seule façon de réussir à trouver ce que t'aimes, parce que si tu sais pas du tout, c'est de faire 150 trucs différents. Et j'insiste sur le nombre, 150, c'est pas des blagues. Même des petits trucs hein, qui prennent un ou deux jours à découvrir. Et à un moment donné, il va y avoir un truc où tu vas vraiment savoir que c'est ton truc. Et ça, tu le sais que quand tu l'as vu.
Encore ouais, c'est presque une manière start-up de gérer sa vie un peu, quoi. C'est de faire plein de petits essais et d'itérations.
Ouais. Ouais, ouais, peut-être.
Ouais. Ouais, non, mais je voulais juste dire pour le côté enfance, peut-être aussi que t'es pas obligé de considérer que si t'aimais bien le piano quand t'étais enfant, il faut que tu deviennes joueur de piano professionnel.
Pas forcément,
mais
non.
Tu peux trouver des intersections
oui.
entre tes domaines de.
Des mélanges. Ça c'est.
Je vous entendais parler de ça vaguement tout à l'heure, je crois.
C'est plus. Des fois, c'est plus subtil, tu vois. On a tous entendu le discours peut-être de Steve Jobs à Stanford ou quoi, qui dit qu'un jour il a appris la calligraphie, il savait pas du tout à quoi ça lui servait. Et un jour, le jour où il a lancé le Mac, il s'est souvenu des belles lettres et de la calligraphie. Il a fait le premier ordinateur où il y avait vraiment des belles lettres, où en gros les développeurs se préoccupaient de la graphie du texte, qui a été quand même un critère. Particulier pour la création du Mac. Donc tous les trucs qui ont pas l'air sérieux, calligraphie honnêtement, qui aujourd'hui faisant des études de calligraphie se dit que ça va créer de la valeur dans sa vie? Personne. Mais il aimait vraiment ça. Donc lui, il s'est pas posé la question, il s'est dit je vais faire de la calligraphie, prendre un cours de calligraphie en plus d'un million d'autres choses. Et ben c'est ça, c'est tous les trucs qui t'ont plu ou ton expérience passée, même si ça t'a amené à rien, il faut avoir une certaine confiance dans la vie qu'à un moment donné toutes ces expériences vont se recouper. Et toute cette multiplication des expériences font de toi l'être unique que tu es aujourd'hui. Là où les gens n'ont pas toujours, à mon avis, cette vision-là, ils pensent qu'ils sont que le produit de la multiplication de l'école, qu'on est des pions, des copies. Je suis convaincu de l'inverse. Je pense qu'il faut déconstruire ça et dire, en fait, ton expérience de vie, elle est unique. T'as plein de choses qui font que personne est comme toi. Et c'est en multipliant tes expériences qui font qu'aujourd'hui, t'as une proposition de valeur qui est différente de tout le monde.
Capitaliser sur tout ce qui fait que t'es différent des autres profils, en quelque sorte.
Ouais, mais c'est la somme de tout. Ça veut dire chaque truc pris un par un a l'air d'être très banal.
C'est pour ça que tu dis de partir en voyage, par exemple. C'est pour ça que tu dis.
Ça peut aider, ouais. Mmh. Pour moi, ça peut aider, mais c'est plus une question de rapport au monde, rapport au monde du travail, rapport aux relations, qui t'aide énormément. Ces soft skills, tu vas les travailler en voyageant. Et tu vas peut-être faire un petit boulot. Tu vas faire un boulot de plongeur, je sais pas, dans un restaurant. Moi, j'ai été 4 mois à Londres et j'ai fait vendeur de caméras et d'ordinateurs dans un Sony Center. Bah, ça m'a appris 2-3 trucs. J'étais pas très très bon, mais j'ai appris par exemple qu'en 2 jours en faisant du porte à porte, je pouvais trouver un travail. Genre, j'ai pris mon CV à la main et je suis parti toquer à toutes les portes. Et aujourd'hui, j'ai confiance dans le fait que je peux aller dans un pays étranger, mettre mon CV à chaque porte et trouver un boulot. Ça change les choses quand même.
Ah oui, c'est très libérateur parce que du coup, ça veut dire que tu as moins peur en fait. si t'arrives à quelque chose, tu sais que tu pourrais retrouver un travail du coup, quoi. Donc c'est tout, c'est
quelque
comme,
part
c'est comme
après,
débloquer des...
Ouais, ça a débloqué des verrous dans mon cerveau qui croyaient que j'en étais pas capable. Mm. C'est dur, hein, au début. Mais en fait, en te forçant, donc en sortant de ta zone de confort, donc peut-être en sortant un petit peu de ton boulot dans la banque ou dans le conseil, si jamais c'est un truc que tu fais juste pour de façon alimentaire, bah tu peux découvrir des choses passionnantes. Ceci dit, t'es pas obligé de tout plaquer pour faire ça. Tu peux prendre quelques week-ends de voyage ou 2-3 semaines, ou tu peux te mettre à mi-temps, ou tu peux faire ça le soir et le week-end. Enfin, encore une fois, il y a plein de façons de combiner ton travail alimentaire ou le truc dans lequel t'es actuellement et de toucher à d'autres domaines.
Parce que encore une fois, j'ai le sentiment que beaucoup de gens pensent que d'essayer toutes ces choses un peu peut-être qui ont l'air un peu enfantines ou un peu légères, c'est risqué.
Ouais.
Alors que j'ai le sentiment, et ça c'est une phrase de Seth Godin, je crois que c'est que safe is risky, tu vois. C'est qu'en fait, si tu t'essayes aucun truc, c'est ça qui est vraiment risqué, parce que comme le monde change hyper vite.
C'est risqué pour ton employabilité, et c'est risqué aussi pour ton plaisir à travailler ou à bosser au quotidien ou à faire ce que tu fais. En fait, et donc oui, le pattern, le truc que je vois régulièrement, c'est des gens qui, effectivement, ne savent pas quoi faire ou ne savent pas en quoi ils sont bons. Ils peuvent même, du coup, entamer une période de déprime, penser qu'ils sont mauvais en tout et en plus, le pire, c'est que plus tu le penses, plus ça devient vrai. Tu crées les conditions de ton truc.
Mais dans les deux sens, parce que plus tu penses que ce que tu fais c'est bien, et plus ça devient vrai aussi.
Ça peut être ça aussi. C'est vraiment une question d'équilibre, mais ouais. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce côté pas avoir peur du côté enfantin qui est un peu des fois décrié ou ridiculisé, c'est bien. Mais c'est pas simple. Je reconnais que c'est pas simple, je reconnais que ça peut prendre du temps, mais par contre, qu'il faut se mettre en recherche dès maintenant, et dès maintenant, ça peut être 39 ans, 45 ans, on sait rien, mais faut pas avoir peur de ça.
Est-ce que tu penses que la standardisation de l'éducation, ça fait partie des causes de ce problème-là ? Le côté, vous êtes tous sur un template, sur un plan d'études standardisé, et du coup, il n'y a que à 25 ans que vous commencez à vous dire « Ah, est-ce que je pourrais pas essayer de faire des choses pour moi, voir ce qui m'intéresse ?»
Je pense que c'est du gâchis, effectivement. Mais je veux pas critiquer tout le système, parce que il a été conçu à une époque, qui est quand même celui de la révolution industrielle, ça n'a pas changé depuis, où on avait besoin de travailleurs qui étaient en fait des copies conformes. Hein, taper sur un clou dans une chaîne de montage à longueur de journée, c'était un peu pour ça qu'on venait de former, et on voulait que tout le monde ait des bases de lecture, écriture, de comportement, etc. Donc on formait des clones, et en fait la formation telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'école, qui n'a pas changé depuis, elle était très adaptée à ça. Dans le monde actuel, t'as plutôt intérêt, à mon avis, à être unique, à être un peu entrepreneur. D'ailleurs, des gens qui font freelance, il y en a de plus en plus. Je sens vraiment une tendance forte sur le terrain là-dessus. T'as plutôt intérêt à être l'entrepreneur, au moins l'entrepreneur de ta propre vie, et pas la personne qui attend de la société, ou plus particulièrement de la grande boîte dans laquelle elle va rentrer à 23 ans, qu'elle t'accompagne et te fasse grandir jusqu'à ta retraite, et qu'ensuite t'es ta retraite pépère. Ça, je pense qu'on est tous un peu conscients de ça, mais il faut le dire, il faut l'assumer, faire une boîte toute ta vie et espérer de la boîte qu'elle va s'occuper de toi bien jusqu'à la fin de ta vie, c'est illusoire, et je pense que les gens, la plupart du temps, le savent. On a vu en fait nos parents aussi dans ce modèle-là. On a vu aussi les défauts de ça, parce que maintenant ils ont 50, 60, 65 ans, et ils se rendent compte qu'il y a des trucs qu'ils ont pu manquer ou avec lesquels ils n'étaient pas heureux. Et nous, on le sait en fait. Nous, en tant qu'enfants, on a été vachement baignés là-dedans, et on se dit quand même, il y a des trucs de mes parents que j'ai pas envie de faire de la même façon. C'est pour ça qu'il y a un peu ces gaps générationnels. Et ces trucs, c'est tout mettre dans les mains d'une entité extérieure. C'est pas comme ça qu'on a envie de mener notre vie, c'est clair.
Tu veux pas laisser quelqu'un d'autre décider de tes choix ?
Non.
Comment est-ce qu'on fait pour être entrepreneur de sa propre vie ? Ça regroupe quel...
Je viens de donner 2-3 éléments.
Ouais.
La première, c'est sortir de ta zone de confort et donc voyager. Des week-ends ou si possible quelques semaines à droite à gauche. T'installer dans un pays étranger, chercher du travail. Tu peux le faire dans plein de pays où il y a plus de travail ou quoi. Il faut oser, mais il faut le faire. Et tant pis si tu te plantes. C'est-à-dire que si tu reviens... T'as plus de sous ou quoi chez tes parents au bout d'un mois ou deux à l'étranger, mais au moins t'as essayé, et en fait cette expérience d'échec, elle t'aura énormément appris. Donc le simple fait de faire ça, déjà c'est énorme. C'est juste, vas-y, sors de chez toi, sors du milieu dans lequel t'es, va voir ailleurs. Ça peut être dans une autre zone géographique, donc dans un autre pays, ou dans d'autres petits métiers que tu peux essayer. Et surtout, essaie les métiers, n'importe quoi, tout, essaie-en plein, jusqu'à ce qu'il y en ait un où ça fasse un peu plus tilt. Et après, tu vas combiner tes expériences. Il y a peut-être, tu vas essayer 50 métiers, peut-être qu'il y en a un seul qui va vraiment te plaire, mais tu vas en réutiliser 5 autres que tu as appris. Donc l'expérience des 5 autres qui étaient nulles, 5 mauvaises idées finalement, peuvent se transformer en une bonne idée un jour. Ça, c'est, moi, c'est vrai au quotidien. Dans mon boulot, je fais beaucoup d'essais d'expérimentation sur Open Classrooms et j'ai appris que deux ou trois mauvaises idées que j'avais dit, c'était nul. Eh ben, je les combine et ça fait une bonne idée. Donc, c'est aussi ça. Il faut garder confiance dans le fait que les mauvaises expériences, les échecs créent des bonnes choses. Vraiment, j'en suis convaincu. J'insiste beaucoup là-dessus.
Comment tu fais, toi, pour rester entrepreneur, parce que maintenant, ça fait un bon bout de temps que tu es chez Open Classrooms. Comment tu fais pour ne pas... ne pas t'endormir plutôt. Tu sais, ne pas avoir la boîte qui roule. Finalement, vous avez un modèle qui est établi maintenant.
Que tu crois. Que tu crois.
Ouais.
Non, oui, il est plus établi qu'il y a 3 ans.
Ouais.
Mais en fait, il y a 1 million de trucs qui sont en train de se passer et je m'ennuie pas une seconde. Enfin, je peux le dire. Mon problème, c'est plutôt, faut que j'y aille tranquillement, doucement, parce que je suis tellement passionné que j'ai envie de tester plein de choses. Mon cerveau, finalement, a été dopé à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma façon de me comporter, de parler, d'expérimenter des projets, elle est liée à mon expérience ces 10-15 dernières années, où j'ai tellement appris à me comporter comme ça, qu'aujourd'hui, j'ai cette particularité, que j'ai envie de tester plein de projets, plein d'expérimentations, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui marche. Et dès que je trouve quelque chose qui marche, ça m'emmerde. C'est-à-dire que je le passe aux autres, et notamment il y a plein de gens très bien dans la boîte, qui eux savent le passer à l'échelle, l'industrialiser. Moi j'ai déjà fait du management, j'ai déjà fait de l'industrialisation, je suis pas bon à ça, j'aime pas ça, c'est les deux. Hein. J'aime pas et je suis pas bon.
Donc ça c'est important aussi, apprendre à découvrir qu'est-ce que t'aimes, mais aussi où est-ce que t'es bon et pas bon.
Où est-ce que je dois me mettre,
ouais.
Mais encore une fois, ça je pense qu'il y a moins d'un an que je le sais.
D'accord.
Et ça fait 17 ans que je fais ce que je fais. Donc tu vois, faut accepter que tu mets du temps à le trouver.
C'est un peu un message de chill aux gens qui écoutent. Pour moi aussi, moi je sais que
on
va aller vachement vite, tu sais.
J'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est des startups ou que tu m'entends parler à 2000 à l'heure et que c'est vrai que je vais peut-être assez vite, que j'ai pas envie de te dire chill, calme-toi, prends des moments de recul. Mais vraiment, on prend pas assez de moments de recul. Pour l'orientation, je pense qu'il faudrait, j'ai écrit un billet récemment d'ailleurs là-dessus, il faudrait que tu, si tu peux, tu prennes 6 mois, 1 an après le bac pour voyager ou pour tester des métiers, ce que tu peux faire, pour comprendre ce que tu as envie de faire ensuite. Et je pense que c'est pas du temps perdu, je pense que c'est du temps de gagner. Parce que prendre la mauvaise voie et vouloir continuer pendant 5 ans dans cette voie-là, pour te rendre compte à la fin, en fait, c'était pas vraiment ce que j'aimais faire, et ben revenir un peu en arrière, c'est un peu gâcher du temps quand même, globalement.
Mmh. Ouais, ou après, à la limite, tu peux encore le faire après les études, quoi. Ce qui est une autre étape avant d'entrer dans la vie active et de prendre ton
boulot. Tu peux aussi, mais si les études s'avéraient, en fait, être un domaine qui t'intéresse pas tant que ça, j'ai envie de te dire, réoriente-toi au milieu, mais c'est encore plus dur pour les gens de se réorienter au milieu. Du coup, ils attendent d'aller jusqu'au bout, de dire, bon, j'ai quand même le diplôme, bon, je vais quand même faire un peu le travail, bon, 3, 4, 5 ans, bon, 10 ans, ok. Résultat des courses, t'as 50 ans, et tu te dis, bon, là, je vais peut-être faire quelque chose. Mais,
Il est pas trop tard non plus à 50 ans.
Il n'est pas trop tard. Mais clairement, il n'est pas trop tard.
Non, mais c'est ça parce que.
Plutôt tu peux te mettre dedans, plus, mieux c'est pour toi. Mieux c'est pour juste pour ton plaisir à bosser au quotidien.
Toi, tu considères que vous avez une mission d'orientation en plus de la mission de formation?
Écoute, la mission d'Open Classroom, ça c'est encore un peu particulier. On a mis du temps à comprendre ce qu'on faisait. On avait beau faire des trucs et croire savoir ce qu'on faisait, en fait, on a que récemment écrit que la mission d'Open Classrooms, c'était de rendre l'éducation plus accessible.
C'est votre why, c'est ça?
C'est le why, exactement. Start with
why.
Exactement.
Je précise, c'est un livre un talk ou un livre de Simon Sinek pour les gens qui écoutent.
Très célèbre, qui est très court et qui donne quelques idées intéressantes. J'essaie en général de commencer mes talks comme ça, mais tu vois, là, je l'ai pas fait.
Ouais.
surtout, au-delà de la mission, parce que, ouais, rendre l'éducation plus accessible, t'es gentil, tout le monde veut bien ça, déjà, c'est quand même un guide. C'est-à-dire que si on fait quelque chose et que ça ne rend pas l'éducation plus accessible, on va refuser de le faire. Ça, c'est un premier élément. C'est un guide dans la boîte pour savoir ce que tu fais, ce que tu fais pas. Ce qui est très important, c'est de savoir ce que tu fais pas. Et ensuite, on l'a décliné en vision, qui est beaucoup plus pratique pour les 5-10 prochaines années à venir, qui est comment est-ce qu'on fait cette mission? Eh ben, concrètement, on aide les gens à trouver un emploi ou à évoluer dans leur poste. Donc, on va mesurer notre succès par le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à nous. Et donc, si pour ça, il faut faire de l'orientation, on va faire de l'orientation. Si pour ça, il faut faire de la formation, on va faire de la formation. C'est pour ça qu'il faut préparer les gens à l'entretien d'embauche. On va préparer les gens à l'entretien d'embauche. Et en fait, c'est pour ça qu'on est devenu un peu full stack. C'est-à-dire, quelque part, on est petit à petit, on s'étend, en fait, au-delà de la formation, on aide vraiment à la préparation à l'emploi et on est en train de travailler beaucoup la partie orientation. Tu vois, mais on le fait parce que ça a du sens par rapport à cette vision qui est une façon d'exécuter notre mission.
Donc, il faut toujours définir un peu cette mission globale,
ouais,
pour être sûr de jamais trop s'en écarter. C'est ça, sinon tu risques de t'en écarter en ayant la tête, ouais, dans le guidon.
Et notamment, apprendre...
vous vous en êtes écarté à des moments.
Bien sûr.
Ouais.
Si on définit des missions aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est planté, parce qu'on a pris des voies où on se rendait compte que c'était pas forcément ce qui nous aidait à faire ça. Je peux t'en citer un, hein, je te rassure. mais pour expliquer en fait le raisonnement, c'est que ouais, on est une boîte, ouais, il faut qu'on gagne de l'argent, mais l'argent n'est surtout pas une finalité pour moi. C'est un moyen de réussir ta mission. Si toi, ton but dans la vie, c'est de gagner de l'argent, très bien. Dans ce cas, tu fais une boîte qui gagne de l'argent. Et je connais plein de secteurs qui gagnent beaucoup plus d'argent que de créer des boîtes dans l'éducation. C'est clair et net. C'est beaucoup plus compliqué. L'éducation, t'as intérêt à avoir envie sur le long terme. Sinon, les startups en edtech, globalement, c'est des tout petites startups et elles ont du mal à décoller. C'est dur, quoi, l'edtech. Vraiment, le fait de pas prendre en fait le premier contrat qui arrive, parce que ouais, t'as une grande boîte qui veut t'acheter ton service pour 200 ou 300 000 euros et au début t'es fasciné par la proposition de valeur. C'est pas exactement ce que tu faisais, mais bon, tu vas le créer pour la boîte, parce que finalement elle te l'achète pour 200 300 000 euros, bah tu le fais. Et du coup tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, et avant que t'aies eu le temps de dire ouf, t'es une boîte qui est une espèce d'agence déjà, donc tu fais de la presta, ce qui est très bien, hein, plein de gens peuvent faire ça, mais qui a ni queue ni tête souvent, c'est-à-dire que tu vas un peu à droite à gauche, tu cours après plein de trucs. En gros, dès qu'il y a de l'argent, tu le prends et t'exécutes le truc que la boîte te demande. Et nous, on a plutôt essayé de faire un produit, c'est-à-dire d'avoir une vision de ce qu'on veut faire et de refuser, et je te dis que tous les jours, on refuse des gens qui nous appellent parce qu'ils nous disent « mais vous voulez pas faire un cours en ligne pour notre boîte ou quoi ?» Et ou un cours privé, j'en sais rien, parce qu'ils trouvent qu'on fait des bons cours, et on leur dit non, et on peut vous conseiller telle et telle boîte, mais nous on le fera pas. Ça, c'est le truc où on a dit ça remplit pas notre mission, parce que en fait ça rend pas l'éducation plus accessible. Tu vas faire un cours privé pour une boîte, tu vas être payé pour ça, mais tu vas être aussi dans un état d'esprit, dans un mode de fonctionnement qui est très différent.
Et on peut pas aller plus loin, est-ce qu'on peut pas dire pourquoi est-ce que vous voulez rendre l'éducation plus accessible?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ah oui, alors si tu veux aller creuser jusqu'au fond du fond...
Ça, ouais, c'est ça qui m'intéresse.
Ça rejoint mon besoin de partage, mon besoin d'aider. C'est un besoin fondamental pour moi. C'est un besoin qui n'est pas discutable, en fait.
Mais c'est un besoin qui vient d'où, tu penses?
Tout le monde a des besoins. Certains ont des besoins de reconnaissance, certains ont des besoins de sécurité, il y a plein de besoins fondamentaux qui sont indiscutables. Et ben moi, le mien s'est développé assez tôt. Si je te fais
non, mais la preuve, hein,
la psychologie, que... je saurais pas te dire quel est le moment défi, ouais, qui à l'âge de 3-4 ans fait que j'avais besoin d'aider. Honnêtement, ça me vient pas. Mais je sais pas, j'ai testé, j'ai pris du plaisir à aider des gens et donc j'ai eu envie de le faire plus. Et plus je l'ai fait, mieux je l'ai fait.
Et est-ce que là récemment, et c'est pas la première fois, mais vous avez levé des fonds, est-ce que du coup, pour aller dans cette mission de rendre l'éducation plus accessible, c'était important de devenir internationaux ou de grossir beaucoup? Là, pour le coup, c'est une vraie décision, parce que vous auriez pu décider de rester bootstrappé.
Très stratégique comme décision, et loin d'être une évidence, comme la création de la boîte. À un moment donné, tu décides est-ce que tu vas lever des fonds ou pas. Le problème de la levée de fonds, c'est que ça peut être aussi une vision très court-termiste. Tu as de l'argent à court terme, mais à long terme, tu peux avoir des investisseurs qui ont des visions différentes de toi et qui t'amènent dans une direction dans laquelle tu ne voulais pas aller. Nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs propositions au début. Et on a pris pas forcément celle qui payait le mieux, mais on a pris celle où on sentait le mieux avec la personne qui était en face. 1000 fois, je refais la même chose. Hein, 1000 fois.
Est-ce que c'est pas une règle assez générale, même quand tu cherches un boulot
Bien sûr, mais des fois, alors des fois, t'as pas le choix. J'ai envie de te dire, si t'as faim et que t'as besoin de payer ton loyer, je vais pas te dire non, continue. Non, prends ton truc, mais t'arrêtes pas à ça. Ça, c'est vraiment le message que je veux donner. C'est tu peux continuer à chercher quand même à côté. Et sinon, la levée de fonds, bah ouais, on a trouvé des gens qui se trouvaient avoir une personnalité avec laquelle on sentait bien, qui sentait qui nous comprendrait, qui nous écouterait, et effectivement, ils nous ont écoutés, y compris dans les moments difficiles. Et Dieu sait qu'on a eu des moments difficiles dans l'histoire de la boîte, dans les moments où tu sais pas si la boîte elle va survivre encore quelques mois, où honnêtement, t'es investisseur, t'as dépensé de l'argent dedans, 1 million, 2 millions, et tu te dis mais je vais perdre tout mon argent. La situation pourrait être tendue. Globalement, on a quand même toujours eu des très bonnes relations. Et ça, c'est une vraie force, c'est une vraie chance que je reconnais qu'on a dans Open Classroom, c'est que, et avec mon associé, et avec nos investisseurs, on n'a jamais eu de moment de tension comme je peux en entendre dans plein de boîtes. Je touche du bois, là, en ce moment.
Avec
même,
ton associé, continue, tu dirais que c'est de la chance, ou est-ce qu'il y a vraiment eu une période
de... Il y a une construction.
Ouais.
Non, on ne s'est jamais engueulé. Vraiment.
D'accord.
Parce que moi, déjà, je n'aime pas m'engueuler. Donc, j'essaie toujours de trouver des solutions, et puis on a appris à se connaître aussi. On a appris à se connaître. Alors, non, j'aime pas m'engueuler, mais j'aime pas non plus faire un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que profondément, si je fais un truc qui est contre mes valeurs, je vais être malheureux, je vais pas le faire, ou je vais arrêter, ou je vais me barrer. Mmh. Au bout d'un moment, c'est très fort chez moi, c'est viscéral. Voilà. Mais j'ai pas envie de le faire au détriment de mes relations avec les gens. Je dis pas, t'es nul, ton idée c'est de la merde ou quoi. C'est juste, non, profondément, là, je suis en train de faire un truc que j'aime pas, je peux pas. Je peux tenir 5 minutes pour faire un truc que j'aime pas. Je fais tous les jours des trucs que j'aime pas. Mais si ça va très très loin contre mes valeurs, au bout d'un moment, je ne peux pas. Pour rejoindre un peu la question de qu'est-ce qu'on faisait comme activité dans la boîte qui fait qu'au bout d'un moment, je voulais plus, j'en pouvais plus. On vendait de la pub. C'était historiquement sur Open Classroom, ce site du zéro. On vendait de la pub, c'était pratique parce que les cours étaient gratuits. Et du coup, mettre de la pub, c'est une façon de financer les cours gratuits. Plus le secteur de la publicité a évolué, plus il fallait mettre des grosses pubs pop-up, pop-under, habillage dans tous les sens, plus ça devenait n'importe quoi, plus en plus ton objectif c'était pas que les gens apprennent, donc que l'éducation soit plus accessible, c'était de mettre de la pub qui gênait l'affichage pour avoir du temps de cerveau disponible pour les gens, en gros. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que profondément j'aimais pas, mais je savais pas trop pourquoi. Je me suis dit, mais en fait c'est orthogonal avec mon besoin d'accompagner les gens et de les aider à apprendre, ne serait qu'à apprendre. Et donc, au bout d'un moment, avec mon associé, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, en fait, on n'est pas des gens du média, on n'est pas des gens de la pub. Donc, cette pub qui nous fait vivre aujourd'hui, en fait, on y croit de moins en moins parce qu'il faut mettre des pubs de plus en plus grosses. En plus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui installent des adblockers. Et on a bien fait parce que là, aujourd'hui, c'est devenu encore plus le Far West. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, OK, on va débrancher les publicités une par une petit à petit, pas d'un coup, parce que sinon, on va plus pouvoir vivre. Et on va créer un nouveau modèle qui a été le modèle freemium, où on a réussi à garder les cours gratuits et à créer des nouveaux services. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, de formation en ligne, où t'es accompagné par un mentor, t'as un diplôme, et ça, c'est ce qu'on fait payer. Pas les cours, mais l'accompagnement. Et c'est ce qui nous fait vivre. Ça, c'est, en 2 ans, on a renversé le modèle de la boîte qui, à l'époque, vendait de la pub et vendait des livres papier. Et à ce moment-là, le livre papier, en plus, il se trouvait que ça marchait de moins en moins bien. On a arrêté les deux et on a créé un nouveau modèle et qui a largement dépassé ce qu'on faisait avant. Donc, on a renversé le modèle de la boîte.
Vous aviez peur que les gens ne soient pas prêts à payer pour des cours en ligne?
Mais on n'a pas fait payer pour des cours en ligne, justement. C'est ça, le truc. On a fait payer pour des services
aux cours en ligne. Vous faites payer notamment pour les certifications, c'est ça?
Ouais, pour les certifications ou pour le mentor qui t'accompagne et qui t'amène à un diplôme. Tous les cours sont gratuits. Mais en fait, ce qu'on fait payer ici, le vrai modèle aujourd'hui d'Open Classrooms, c'est un modèle à 300 euros par mois où tu es accompagné par un mentor qui te fait faire des projets professionnels, donc ça te fait un portfolio, et qui à la fin aboutit à un diplôme reconnu par l'État. Et quand je dis diplôme reconnu par l'État, c'est un vrai papier, celui soit d'Open Classrooms, soit celui d'une école partenaire d'Open Classrooms. Par exemple, aujourd'hui, tu peux être data scientist avec Central Paris sur Open Classrooms, et à la fin, tu as le diplôme de Central Paris. Aucune différence avec les gens qui ont fait l'école.
En plus, vous avez un système qui est que si tu trouves pas d'emploi dans les 6 mois, tu peux être remboursé de ta formation.
Ouais, c'est ça. On a lancé la garantie d'emploi il y a un peu plus de 6 mois. Et 6 mois après ton diplôme, si tu n'as pas trouvé de travail, on te rembourse les frais de formation Open Classrooms.
Est-ce que parfois, ça risque pas de vous biaiser à pousser les gens dans des métiers pour...
Pour qu'ils fassent des métiers quand même.
Pour qu'ils prennent un job, comme pour que vous ayez des bonnes stats.
On a prévu le coup. Encore une fois, tout est lié à notre mission, notre vision. Ouais, il faut que l'intention reste honnête. Si tu commences à la tordre, tu as un problème. Et là, l'intention, pour qu'elle reste honnête, ce qu'on a fait, c'est que on a écrit clairement les conditions de cette garantie d'emploi. Et on a dit, ça sera dans le secteur pour lequel tu t'es formé. Un secteur très proche, en tout cas. On te garantit que si tu fais un boulot de développeur web, tu auras un métier dans le développeur web. Il y en a plein, hein, des métiers connexes à ça. Mais en tout cas, on te garantit ça, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on en est sûr? Bah parce que les gens trouvent un emploi déjà tout court, et surtout parce que on a créé des formations uniquement sur des métiers qui recrutent, qui sont en tension.
Comment vous faites pour savoir que pour ne pas vous planter à ce sujet-là?
On fait des sondages, on teste, on regarde les statistiques de Pôle emploi, on rencontre les employeurs, on sort du bureau, on va voir les gens et ils nous disent ah, là j'ai trop de mal à recruter des data scientists. Une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Au bout d'un moment, on commence à se dire, il y a un truc qui se passe, quoi.
Et vous étudiez la question, parce qu'imaginons qu'on te dise, j'ai trop de mal à recruter des data scientists, mais que dans 3 ans, ce soit plus le cas du tout. Que ce soit qu'une hype ou quelque chose comme ça.
On fait gaffe à ça, ouais. Autant que possible. Parce que justement, on va regarder le métier. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, par exemple, en ce moment, ils sont au taquet sur la data science, mais ils savent pas trop bien ce que c'est un data scientist. Donc, il y a des boîtes qui recrutent des data scientists, mais en fait, ce qu'elles veulent, c'est des data analysts, qui est un autre métier, qui est proche mais qui est moins complexe. On en tient compte et on fait une formation de data analyst et on écrit les projets du parcours en fonction de ce métier-là. Donc on essaie de tenir compte au maximum. Et ensuite, est-ce que le métier va changer sûrement? Bah ouais, mais ça on peut pas le deviner, on n'est pas dedans. Donc nous, notre seul message par rapport à ça, notre seule force, c'est qu'on est capable de transformer la formation très vite. C'est-à-dire que si le métier est en train de changer, en 3, 4, 6 mois, on continue en fait même. On va modifier la formation pour qu'elle reste à jour par rapport aux besoins du secteur.
Vous n'avez pas peur de sacrifier des cours qui seraient devenus obsolètes? Je me posais une question par exemple, en relation au cours de HTML et CSS. Je me disais, mais en fait, est-ce que maintenant c'est encore pertinent d'apprendre aux gens le HTML et le CSS?
Très clairement.
Puisque tu peux faire un Squarespace en 1 minute et demie, 2 minutes.
Bah, y a des cas où justement tu n'as pas besoin de le faire. Ouais, mais en fait il y a plein de cas où t'as besoin de savoir comment ça marche. C'est juste si t'as juste besoin d'un site en 2 minutes très simple sans complexité, oui, tu peux utiliser un outil en ligne qui le fait très bien. Mais si tu veux bosser chez Open Classroom, c'est que tu connais pas tes bases de HTML, t'es mal barré. Y compris si tu travailles pas dans le développement. Hein. Aujourd'hui, un web marketeur qui vient chez Open Classroom, c'est qu'il connaît pas des bases de HTML et même un peu de JavaScript, on le prend pas. Ou alors on le forme et on lui dit tu vas apprendre ça parce que t'en as besoin. Donc c'est pas aussi simple que ça.
D'accord. On approche de la fin. Je voulais te poser des questions sur... C'est une question de productivité, on peut dire. En fait, c'est comment est-ce que tu fais pour t'organiser, pour avoir le sentiment, je dis bien le sentiment, parce que je pense que c'est vraiment un sentiment d'être productif.
Ouais.
Tu vois, parce que c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé récemment. Comment s'organiser de manière à se sentir productif? Parce qu'au finalement, tu peux toujours en mettre plus, surtout quand tu es entrepreneur.
Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai fait un meeting en interne dans la boîte récemment pour parler de mon mode d'organisation. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé plus d'infos sur comment je m'organisais. Donc, au bout d'un moment, je l'ai un peu formalisé. J'ai fait une vidéo que peut-être finalement je partagerai sur Internet vu que ça a l'air d'intéresser du monde sur comment je m'organise. Mais le piège de ça, c'est pas parce que moi je m'organise comme ça que toi t'as intérêt à t'organiser comme ça. Je pense même que t'as plutôt intérêt à pas le faire. Parce que si tu essaies de faire comme je fais, ça va être trop brutal et c'est peut-être pas du tout adapté à tes besoins ou à ta façon de faire. Donc déjà, j'insiste, je peux te dire comment je fais, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut que toi, tu fasses. Et je vais déstresser tout le monde par rapport à un truc. Je me trouve plein de fois pas productif. À peu près 10 fois par semaine, je me dis, putain, j'ai pas été productif. Ça m'arrive fréquemment. Parce que des fois, je suis pris dans des rendez-vous, des talks ou des interviews, comme on peut faire là, et je me dis, tiens, tout ce que j'aurais pu faire, tu te rends compte? Bon, ça va, tu vois, c'est une question d'équilibre, en fait. Mais des fois, il y a des semaines où je passe ma semaine au rendez-vous extérieur et j'ai rien bossé de sujet de fond. Et je me sens malheureux parce que j'ai pas fait de truc productif, j'ai l'impression, en tout cas. En fait, c'est utile, mais... Et pour rentrer dans le fond de mon organisation, en fait, j'ai lu il y a longtemps un bouquin qui est assez connu, qui s'appelle Getting Things Done, de David Allen, la méthode GTD, qui m'a pas mal inspiré. Je dis pas que c'est la seule façon de faire, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé.
Tu veux dire inbox, later
Ouais. C'est un truc comme ça. Donc, si vous voulez lire un bouquin, Getting Things Done, ça se lit bien. Ça suffit pas. Après, il faut pratiquer. Et ça peut se faire de plein de façons différentes. Avec des post-it, avec du papier, si vous aimez ça. Ou avec des logiciels. Il y a plein de logiciels. Tu tapes GTD Software dans Google.
Moi, j'utilise Trello et j'ai cette méthode-là.
Trello, ça peut marcher. Ouais. Moi, j'ai utilisé plusieurs outils, dont un truc qui s'appelait Productive, justement, à une époque. Et maintenant, je suis sur un truc qui s'appelle OmniFocus depuis 3 ans. Qui est un logiciel pour Mac, pour iPhone et compagnie, qui est cher, honnêtement.
Ça coûte combien?
Bah, je crois que j'ai payé 100-150 euros la version Mac plus iPhone plus iPad et tout. Mais par contre, ça fait 3 ans que je continue à utiliser. Donc pour moi, c'est signe quand même que j'ai trouvé un truc qui me plaisait. Mais avant ça, j'étais pour l'info sur l'application rappel de l'iPhone et du Mac. Ça me suffisait pendant longtemps. Et en fait, j'ai développé ma propre méthode qui est inspirée de GTD, où dès que tu me dis un truc, que je veux faire un truc, que je veux lire un truc, en gros, dès que quelqu'un me parle d'un truc, je le note. Je le mets dans une inbox, dans une boîte de réception que je trierai plus tard. Mais tout le temps, hein, y compris quand je suis en train de faire autre chose ou quoi, je le note. Juste pour pas stresser en me disant, je m'en souviendrai. Parce qu'en fait, tu t'en souviens pas, tu stresses. Donc je le note, quoi. J'utilise beaucoup aussi Siri sur le téléphone.
Tu utilises Siri?
Ah, énormément.
Je pense que la première personne que je rencontre de l'univers qui me dit qu'elle utilise
tout
Siri.
Tout le temps. Et sur mon Apple Watch aussi, je suis dans la rue, je fais, hey, dis Siri, rappelle-moi de récupérer des cartes de visite. Et ben, il me le met dans mon inbox de OmniFocus, en fait. Ça marche super bien. Hein, okay. Il y a plein de défauts, mais en fait, ça marche vachement mieux qu'il y a 2 ans. Et moi, tu sais, je suis juste en train de marcher dans la rue. J'ai pas le temps de sortir mon téléphone ou quoi, mais le Siri va plus vite que ça. Donc pour moi, c'est vraiment un moyen de noter. Et ensuite, régulièrement, une fois par jour ou deux, je trie ma boîte de réception avec toutes les idées et je les mets dans des projets que je trie, en fait. Je mets une date limite quand il y a besoin de mettre une date limite. Je mets des sous-tâches, des fois, je les groupe ou je les regroupe. Et tous les débuts de semaine, je définis ce que je vais faire cette semaine. Genre le dimanche soir ou le lundi matin, je mets toutes mes tâches de la semaine.
T'en mets pas trop par défaut?
Toujours
parce que moi j'en mets toujours beaucoup trop.
J'en mets toujours trop et je suis toujours déçu.
Ouais.
Désolé, c'est ma vie ça. Et tous les matins, je prends ma boîte de la semaine et je décide ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je prends un sous-groupe de la semaine en fait. Comme ça, je vois que les trucs de la journée et je suis pas paralysé par l'ensemble des tâches que j'ai à faire. Parce que pour info, dans ma boîte sur OmniFocus, je dois avoir bien 200 tâches à faire. Et je sais que si j'en fais le tiers, ça sera déjà un miracle. Et il y en a qui vont rester pendant 2 ans avant que je les supprime en disant « finalement, c'est plus d'actualité ». Et ben, c'est très bien.
Ouais, mais le but, c'est de hiérarchiser, justement.
Je hiérarchise par le quotidien, par la priorité, parce qu'en ce moment, c'est chaud. Voilà. Et quand ça devient froid ou que ça devient hors sujet, et ça arrive très fréquemment, la tâche que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, eh ben, en fait, je la fais jamais. 2 ans après, je la supprime. Ça m'arrive fréquemment. Mais sinon, je prends un petit peu de tâches toutes les semaines et donc tous les jours et j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Et quand je suis malheureux, je prends la vue terminée, la vue où je vois toutes les cases que j'ai cochées et je regarde tous les trucs que j'ai fait ces derniers jours, ces dernières semaines et je me dis, ça va, c'est pas mal quand même.
Ça te remet de bonne humeur?
Ça me fait du bien.
Est-ce que tu arrives à... Tu sais, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Deep Work qui parle de les moments où tu arrives à caler du deep work, quoi, ouais, du travail profond, tu vois. Ouais. Comment tu t'organises pour ça? Est-ce que t'as une méthode? Est-ce que tu te dis le matin, c'est le moment où je fais mon travail, mon deep work, ou est-ce que c'est le soir ou l'après-midi?
Mon deep work.
Ou est-ce que tu le cales quand tu peux?
Il marche pas quand je suis au bureau en général, parce qu'il y a trop de monde qui vient me voir, il y a trop d'échanges. Mais c'est bien de faire ces échanges, je suis content de les faire. Mais je peux pas faire que ça, sinon je suis malheureux, parce que justement, je fais aucun deep work. Faire du deep work, j'ai essayé de le faire chez moi, ça marche un peu, donc je fais du télétravail de temps en temps. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du télétravail dans un café. Je me pose n'importe où, même pas très loin du bureau ou de chez moi.
Pourquoi c'est mieux un café?
Je sais pas pourquoi, j'ai dû lire des trucs et j'ai dû en être convaincu. Mais parce que le bruit ambiant, en fait, t'aide à te concentrer. D'ailleurs, il existe des sites où tu peux télécharger du bruit ambiant, non pas du bruit blanc, du bruit de café ou de cafétéria. Et tu peux récupérer ce bruit-là alors que t'es loin de tout. Parce qu'il paraît que ça, je sais pas, ça te met dans un mood de réflexion. J'en sais rien, mais... mais je me suis pris de surprise des fois à aller à ces services-là. Et sinon, je suis juste dans un café, je me mets dessus et je bosse, mais alors avec une efficacité, un truc que j'ai oublié que j'étais capable d'être aussi efficace. Je fais 3 heures dans un café et je suis super heureux. Et je fais que ça va pas, parce que tu vois, il faut que j'équilibre avec le reste, à voir les gens et tout ça. Mais ouais, ça marche super bien.
Qu'est-ce que tu ferais si Open Classroom se cassait la gueule du jour au lendemain?
Je sais pas, j'ai aucune idée. Tu vois, je suis comme le lycéen qui sait pas du tout ce qu'il va faire plus tard, j'ai aucune idée. Le fait que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait jusqu'ici, quelque part, me donne une certaine confiance dans le fait que, bon, je dois pouvoir refaire des trucs, mais je peux tomber très bas. Et ce que j'ai pas dit, c'est que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Tout est plus fort, en fait. Quand t'es salarié, c'est un peu lissé, tu vois, c'est comme une sinusoïde, ça monte, ça descend lentement. Quand tu es entrepreneur, à ton compte, tout est plus fort, la montée est plus forte, et quand t'es en haut, t'as l'impression vraiment d'être le roi du monde, et 3 jours plus tard, et je plaisante pas, 3 jours plus tard, tu peux être tout en bas et dire je suis nul et tout le monde me l'a dit et ils avaient raison, etc. Et ça, dans ma vie, ça m'est arrivé plein de fois, et je sais que ça sera encore le cas demain et après-demain. Là, je suis dans un truc d'assertion qui est super top, mais je suis aussi très sûr que je vais avoir des moments durs, Donc maintenant, je prends du recul par rapport à ça, ce qui fait que les moments durs sont un peu moins durs, même s'ils sont durs, pour me dire, en fait, là, je suis en bas de la courbe, mais après, ça va remonter.
Comment tu fais pour gérer le psychologique, justement ? Est-ce que t'es quelqu'un d'assez stable ou
je prends mon assez stable, ouais.
Ouais.
Je pense.
Parce que moi, je sais que on parle de ses hauts et de ses bas. Mmh. Et moi, ce qui est marrant, c'est que je sais dans une journée, en fait.
Oui,
le matin, je vais dire « Ouh !» et le soir, ouais. Je vais dire « Mais t'es vraiment une merde, ce que tu fais, c'est naze.
Ouais, » ouais.
Et je recommence le lendemain, tu vois.
Ouais.
Et pour le coup, je te parle de tous ces trucs de productivité, etc. Parce que je pense que moi, ça m'aide à gérer justement la psychologie, tu vois.
Ouais.
De trouver des méthodes qui font que tu te
rationaliser
sens...
un peu.
Ouais, c'est ça.
Ça m'aide à rationaliser. Mais en vrai, tout n'est pas rationnel. Il y a des fois où il se passe des trucs... un gros truc de merde et t'es en panique et en fait t'as merdé et tu t'en rends compte et t'es vraiment une sale merde et tu te dis vraiment qu'est-ce que j'ai foutu depuis des mois ouais ça m'arrive mais après moi ce qui m'aide aujourd'hui à avoir ce discours c'est un parce que en ce moment tu fais l'interview je me sens bien donc je serais déprimé j'aurais peut-être pas le même discours
ça me fait plaisir
voilà et deux l'expérience. C'est-à-dire que si je te parle de la fameuse sinusoïde ou l'espèce de montagne russe, ça monte, ça descend, c'est parce que, en fait, l'ayant vécu plusieurs fois, sans savoir que ça existait, sans l'observer avec la distance, c'est comme quand t'es dans la montagne russe, tu vois pas que t'es sur une montagne russe. Quand tu prends du recul, tu vois une montagne russe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Avec l'expérience, j'ai vu qu'en fait, dans la vie, il y avait des montagnes russes, en tout cas dans ma vie, et je me suis dit, ok, bon, ben, visiblement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai rationalisé comme ça. Ça marche bien dans une certaine mesure, hein, parce que je te dis encore une fois, les jours où ça va pas, ça va pas. Mais j'arrive à le traiter. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'essaie de pas péter un câble, de pas tu vois tout casser. Mais j'essaie surtout de m'écouter. Ce qui fait que en fait, normalement, j'essaie d'éviter de tomber dans les cas extrêmes en m'écoutant assez tôt, en ajustant la route, le tir avant que ce soit vraiment la merde. Et ça, c'est parce que je l'ai pas fait plein de fois que je te dis ça aujourd'hui.
Hein. Dernière question. C'est une question que je pose à presque tous les invités. C'est quel conseil tu donnerais à toi, mais il y a 10 ans ?
Alors, il peut y en avoir plein. Et d'ailleurs, ça serait le sujet d'un billet de blog que je vais écrire depuis longtemps. Si je revenais dans le temps et que je... Alors moi, je sais pas, si je vais dire j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, j'ai pris une voie qui n'était pas du tout évidente, mais je me suis écouté. Donc j'ai pas envie de dire mais putain tu t'es complètement planté, il faudrait que tu refasses, tu vois. Si c'était à refaire, moi je pense que je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, si tu veux le généraliser, il y a quand même un ou deux trucs importants, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire t'écouter et être honnête envers les gens et envers toi-même. En gros, quand t'es plus jeune au lycée ou quoi, tu penses que ce qui est important, c'est d'avoir un bon boulot, stable, sûr, bien payé. Quand je vais voir des lycéens, première question qu'ils me posent, c'est est-ce que t'es riche, est-ce que t'es bien payé, parce que j'ai l'impression que eux, c'est le sujet numéro un. Ils s'en foutent d'être heureux, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, ils veulent beaucoup pour beaucoup, hein. Ils veulent beaucoup juste avoir un bon salaire. Et moi, ce que j'ai envie de dire à mon moi d'il y a quelques années et aux gens qui peuvent avoir, je sais pas, 18, 25 ans, c'est pour que le salaire ça fait pas tout, que c'est important plutôt de faire ce qu'on aime et que le salaire suit. Peut-être des fois des années plus tard, hein. Mais quand tu fais vraiment ce que t'aimes, tu finis par retrouver un salaire équivalent ou largement supérieur si jamais tu fais vraiment ce que t'aimes. Donc moi, je me dirais, sois honnête envers toi-même, écoute ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Surtout, écoute pas ce que les gens disent qui est bien ou pas bien, que ce soit tes parents, que ce soit tes amis, la société, emmerde-les un peu, quoi. Et confiance, c'est très dur, hein. Et confiance en fait dans ta capacité de jugement. Si tu sens que t'es heureux dans ce truc-là, va plus loin, même si c'est pas un truc que la société elle aime ça. Si t'aimes pas, au contraire, change. Attends pas trop longtemps. Donc c'est savoir, ouais, s'écouter, c'est très important. Et un autre truc très important, c'est toujours sur l'honnêteté, dire la vérité. Je sais pas combien de gens pensent qu'il faut mentir dans la vie pour réussir. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui réussissent en mentant très bien dans la vie. Mais
pour ça.
Oui, mais je pense que c'est une dette à long terme. Je pense que, avec du recul, eux te diront, j'aurais peut-être mieux fait de pas mentir. Mais peut-être que ça marche très bien pendant 40 ans de leur vie, et ensuite ils s'en prennent plein la gueule parce qu'ils ont déconné, ils se sont menti à eux-mêmes et aux gens autour. Donc, l'honnêteté, pour moi, ça paye. Tu vois, par exemple, si tu fais un entretien chez Open Classrooms et que je te surprends en train de me mentir, c'est red flag. Tu viendras jamais. C'est pas vrai dans toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui adorent le mensonge et où il faut survaloriser ton salaire ou quoi. Ok, c'est vrai, je sais que ça existe. Mais au fond, je te conseille de pas le faire. je te conseille d'être honnête. D'être le pauvre con qui dit la vérité. Parce que je pense que ça crée vachement plus de valeur, mais juste à long terme. En gros, le mensonge, c'est une façon de gagner à court terme.
Puis avec l'honnêteté, tu envoies le bon signal et tu trouveras les bons récepteurs, en fait.
Les gens le savent. Tout le monde a des bullshit détecteurs. Mmh. Tout le monde sait quand quelqu'un est en train de dire, mais ils s'en rendent pas compte, hein. Mais ils savent qu'il y a du faux dans ce que tu dis. Quand tu es sincère et vrai, les gens, ils t'écoutent vachement. Il y a une espèce de réception empathique, je sais pas comment le dire, où tu crées du lien vachement plus fort. Et moi, j'ai vraiment, je dis pas que j'ai jamais menti, je dis pas que je mens pas régulièrement ou quoi, mais j'essaie de le faire le moins possible parce que ça me procure beaucoup de plaisir, en fait, de créer des relations sincères. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Mathieu Nebra, d'être venu sur Nouvelle École.
Mais merci pour l'invitation.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais, qui écoutent le podcast?
Voilà. Déjà, aller sur Open Classrooms pour voir les formations qu'il y a. Il y a plein de choses intéressantes à regarder. Il y a des cours que j'ai fait notamment dessus. S'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à Open Classrooms, on recrute pas mal en ce moment, ne serait-ce que des mentors, où ça peut se faire à distance. Il faut suffire d'aller à la section Jobs, en bas du site, il y a des liens. Si c'est sur ce que je dis ou ce que je raconte, sur Medium, je poste régulièrement. Donc, tu cherches Mathieu Nebra, medium.com. Et je poste des billets assez régulièrement. Là, je suis en train d'en rédiger un nouveau, justement.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.